Les séminaires du Collège de France.
Mesdames, Messieurs, merci d'être fidèles à ce rendez-vous. Nous avons parlé aujourd'hui de diverses choses et je suis vraiment très très heureux d'avoir invité, qu'ils aient accepté aussitôt de répondre à mon invitation, Anna van den Kerschow et Mohamed Ali Amir Mouedzi. Ils sont tous les deux, chacun dans leur domaine, de très très grands spécialistes, ayant à la fois une activité individuelle très forte, mais aussi collective, un sens de l'organisation. On doit à Anna van den Kerschow toute une série de publications très savantes sur, Plotin, elle a fait des études coptes, elle s'est beaucoup intéressée aussi à la patristique, à toutes ces formes de christianisme extrêmement complexes qui ont régné dans les premiers siècles de notre ère. Mais ce dont elle parlera aujourd'hui, c'est assez différent. C'est son expérience particulière dans l'enseignement de, au fond, l'exégèse historico-critique, comme on dit maintenant, ou l'histoire critique des Écritures saintes ou des textes sacrés. Et elle est doyenne de l'Institut de théologie protestante, l'ITP, et c'est dans ce cadre qu'elle a eu l'occasion d'enseigner, au fond, l'histoire critique de la Bible à un public qui peut être croyant ou pas, enfin. Et c'est extrêmement intéressant, c'est une question fondamentale que je pose dans mon cours, c'est est-ce que l'histoire critique des textes, et ça vaut pour évidemment l'islam comme pour le christianisme, mais aussi pour le judaïsme et d'autres religions, est-ce que l'application d'une pensée critique et rationnelle à la connaissance des textes sacrés, des textes de la révélation, c'est quelque chose qui est finalement peu... saper ou miner votre foi, ou au contraire, finalement, d'une certaine manière, la conforter. Enfin, c'est une question assez, assez difficile, c'est un peu le choix de chacun, et dans le cours que je fais en sorte de ne heurter personne, ni les croyants, ni les athées, ni les indifférents, ni les vaguement croyants. Enfin, un nuancier extrêmement fin et subtil actuellement, puisque toutes les enquêtes montrent que, par exemple, la plupart des croyants ne sont plus pratiquants, ça vaut même pour une bonne partie des musulmans, que les gens qui se disent affiliés à telle ou telle religion ne croient plus aux dogmes fondamentaux de la religion en question. C'est absolument saisissant. Plus de la moitié des catholiques ne pensent pas que, par exemple, Jésus soit le Fils de Dieu, des choses de ce genre. Donc on est dans un univers maintenant très mouvant, dans un contexte de sécularisation très avancée, qui va beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait penser à l'origine. Guillaume Cuchet, il y a 15 jours, a dressé un constat tout à fait saisissant de l'espèce de débandade à laquelle on assiste, en tout cas du côté du catholicisme. Donc ce contexte est extrêmement compliqué. Et évidemment, un des aspects de ce problème, c'est que le catholicisme se défait au moment où une immigration musulmane encore très attachée à sa religion modifie le paysage religieux du pays, donc ça soulève toutes sortes de problèmes. Mais en réalité, quand on regarde de près les enquêtes sur les croyants musulmans ou les personnes qui disent affiliées à l'islam, on a là aussi déjà un vaste spectre d'attitudes. Tout le monde n'est pas mécaniquement pratiquant, on la donne pas dans la ritualisation, en exécution automatique des commandements, c'est infiniment plus subtil que ça. Et en plus, l'islam est divisé entre plusieurs grandes tendances, et notamment sunnisme et chiisme. Et vous êtes, monsieur Mouedzi, le grand spécialiste français du chiisme, ce qui vous donne aussi un recul très intéressant par rapport au sunnisme. Alors je vais vous céder la parole, vous allez tous les deux prendre la parole pendant 45 minutes et ensuite on ira au débat.
Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, très bien. Donc merci beaucoup, professeur Errant, pour votre invitation, qui m'a un peu bouleversée, parce que c'est pas forcément une thématique que j'aborde, même si bien sûr l'histoire critique, oui. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi de faire part un peu de mon expérience d'enseignement. Alors mon point de départ va être le propos qu'une étudiante m'a tenu il y a quelques années, à la fin de ses études de cycle L. Dans notre jargon à l'Institut, c'est en fait la troisième année de licence, mais nous n'avons pas le droit d'utiliser le terme licence. Donc c'est le cycle L. Alors, ce n'est pas du verbatim, hein, mais la teneur est là. « Madame, vos cours m'ont complètement déconstruite, j'ai passé des moments difficiles ici. » Bon, ça m'a un peu bouleversée, donc j'en ai été désolée, je me suis excusée, etc. Elle m'a dit « Mais vous inquiétez, bah, maintenant ça va beaucoup mieux, j'ai réussi à surmonter cela. » Et en fait, en discutant après avec d'autres étudiants, des années après, ils m'ont dit que leurs années à l'Institut avaient été particulièrement difficiles. Pourquoi ? Quels sont les cours dont elle parlait ? Elle parlait des miens, en particulier, sur l'histoire du christianisme ancien et patristique. C'est l'intitulé de ma chaire, c'est pas moi qui l'ai choisi. Et également ceux de mes collègues à l'Institut protestant de théologie. Et l'étudiante était une jeune personne en reconversion professionnelle, croyante, protestante, souhaitant devenir pasteur. Et ce préambule me permet de poser le cadre de l'intervention. Finalement, la foi à l'épreuve de l'histoire critique du christianisme naissant, donc une expérience d'enseignement. Alors, pour compléter ce cadre, quelques mots sur cet enseignement et le lieu dans lequel il est dispensé. Cet enseignement, c'est une histoire critique par une historienne. Je suis une historienne qui s'est retrouvée dans un institut de théologie. Voilà, il y a des choses. Je n'imaginais pas à 15-16 ans que je me retrouverais là-bas. Et pourtant, j'y suis, j'en suis heureuse. J'ai fait des études d'histoire, donc je suis souveraine pour vous montrer que je suis historienne quasiment jusqu'au bout des ongles, mes collègues le savent. Et j'ai fait un doctorat après en sciences religieuses à l'École pratique des hautes études, sous la direction de Jean-Daniel Dubois, collègue d'ailleurs de M. Amir Moïdzi. Et ensuite, pendant ce temps-là, en fait, j'ai aussi enseigné en collège. Puis je suis devenue formatrice en enseignement des faits religieux à l'École pratique des hautes études, où je vais convaincre les enseignants du secondaire et les diverses institutions étatiques que oui, elles pouvaient parler de religion sans aller contre la laïcité, mais bien sûr qu'il fallait en parler d'une certaine façon. Et enfin, je suis devenue maîtresse de conférences en histoire du christianisme ancien et patristique à la faculté de Paris, à l'Institut protestant de théologie. Cet institut, qui est situé à 10 minutes ici en vélo, je fonctionne tout en vélo, donc c'est mon temps, voilà. À trois missions, et l'une des trois missions, c'est de former des pasteurs pour l'Église protestante unie de France, avec un enseignement académique intégrant les méthodes de la recherche scientifique et sa déontologie. Et d'ailleurs, nous sommes labellisés ESPIG, donc établissement supérieur d'intérêt général, et nous sommes évalués, comme toutes les institutions de recherche et d'enseignement public, d'enseignement supérieur, par la CHERES. Donc pour vous montrer, en fait, qu'on a un pied, on va dire, dans le confessionnel, et un pied aussi, un très grand pied, dans la recherche. Et notre public est composé, dans une très grande majorité, de protestants, mais alors très divers. On a des plus libéraux, très, très, très évangélique, pour reprendre des termes un peu galvaudés, mais qui permettent de bien poser le cadre. Et un certain nombre d'entre eux veulent devenir pasteurs. Et nous avons aussi, parfois, quelques catholiques, juifs, musulmans et des non-croyants. Donc, dans ce contexte, la question des effets de l'histoire critique des religions et du christianisme en particulier sur la foi et les croyances de ces personnes, se pose donc de manière accrue et d'ailleurs peut nous être renvoyée, comme cette étudiante me l'a renvoyée à la fin de ses études et comme d'autres aussi ont pu le faire à l'occasion de différentes discussions. Et l'intervention de cette étudiante le montrait bien, la déconstruction dont elle parlait, c'était une déconstruction en termes de foi et de croyance et qui relève de l'intime sur lequel j'ai assez peu de prise, mais qui finalement, il y a des effets de mon enseignement dessus. Alors cette question des effets invite à poser une autre question, qu'est-ce qu'on entend par foi et croyance ? Comme le relève Frédéric Rognon dans les premières lignes de son article paru en 2008, « La foi au risque du doute », et qui m'a beaucoup aidé de ce point de vue-là, une conception commune de la foi, c'est de ne pas douter. Et à l'inverse, le doute peut être défini comme le manque de foi, ce que l'on trouve dans certains dictionnaires. Or, une histoire critique pose des questions, elle doute, elle ne prend rien pour acquis. Elle va douter en particulier de l'historicité de certaines figures. Non, Moïse n'a pas existé. Et de certains faits mis en avant. Non, la résurrection ne pourra jamais la prouver sur le plan historique. C'est un, voilà, ça relève d'autre chose. Mise en avant par des traditions, c'est être sceptique au sens étymologique du terme, qui vient du grec skeptomai, hein, faut faire un petit peu de grec aussi, c'est bien. Observer, regarder attentivement les sources, les remettre dans leur contexte, etc. Les mettre aussi, les confronter les unes aux autres, et les mettre en perspective avec d'autres documents. Donc tout ça, ça peut bouleverser certains, notamment quand ces sources sont considérées soit comme faisant partie d'un canon, les Écritures saintes, en particulier la Bible, soit parce que ces textes ont participé à la construction d'une certaine histoire des événements du passé, par exemple les pères de l'Église, et donc on les lit dans une certaine optique quand on peut être dans une tradition religieuse. Et cela est particulièrement le cas pour l'histoire du christianisme ancien, qui ces dernières années, notamment dans la recherche, s'est de plus en plus affranchi d'une perspective orientée notamment par la distinction entre, d'une part, orthodoxie et hétérodoxie, très prégnante dans l'Antiquité, dont le caractère construit, hein, cette distinction orthodoxie-hétérodoxie ou hérésie, dont le caractère construit a été mis en lumière, notamment grâce à la découverte d'un certain nombre de documents, notamment les textes de Nag Hammadi, sur lesquels je reviendrai très rapidement, nouveaux documents qui donnent enfin une voix audible à des groupes, à des idées qui jusque-là étaient connues que par l'intermédiaire de ceux qui les critiquaient et dont le point de vue était aussi extrêmement orienté très négativement. Or, beaucoup des étudiants qui viennent à l'Institut protestant de théologie, beaucoup d'étudiants, viennent avec des certitudes historiques qui, pour eux, vont nourrir leur foi, qui vont nourrir la véracité d'un certain nombre de croyances et de postures religieuses. Et quelques-unes de ces certitudes concernent la manière de concevoir, justement, les débuts du christianisme comme étant un tout qui jaillit directement des propos de Jésus, un peu comme à l'image d'Athéna qui va sortir toute casquée de la tête de Zeus. Zeus, c'est Jésus, Athéna, c'est le christianisme, et hop, elle est là, toute formée. Et donc, il n'y a pas... il y a l'idée, finalement, que les tout premiers disciples de Jésus, les auteurs des évangiles, Paul, ils sont tous chrétiens, voire même, je vois encore dans certaines publications grand public, Jésus lui-même est chrétien. Il y a aussi l'idée que les dogmes ont été élaborés dès le départ. Donc ça leur donne une assise importante. Et qu'ils sont même présents dans les évangiles et les lettres de Paul. Et régulièrement, j'ai des étudiants qui me disent « Non, non, mais ça, c'est bien dans les évangiles. » Je dis « Cherchez-le moi, je ne le trouve pas. »« Non, mais ça y est, je vous l'assure. Bon, » ils ne l'ont pas trouvé, mais ils en sont persuadés. Et ils sont aussi persuadés que le christianisme est devenu hyper important très rapidement. Et ils insistent aussi, pour beaucoup, sur la très grande originalité du christianisme à l'époque, comme un petit peu un apax dans l'Antiquité tardive. Si dans la recherche, on est revenu la plupart du temps sur ces idées, même si on voit encore des petites choses traîner de ci, de là, elles sont encore pourtant bien présentes dans le grand public, en particulier chez nos étudiants. Et je dois ajouter que beaucoup de nos étudiants viennent d'un peu partout dans le monde où la recherche n'a pas... eu le même impact, en fait, sur le grand public. Donc ça aussi, c'est une difficulté à laquelle nous sommes confrontés à l'Institut. Alors, une histoire critique du christianisme ne peut qu'ébranler ces certitudes, et pour certains, donc, leur foi et leur croyance, qui reposent en partie sur ce socle historique. Christianisme naissant, l'histoire critique va la replacer dans son contexte immédiat, celui de l'Empire romain, qui est à la fois un cadre politique, géographique, social et culturel. Et ça, beaucoup des étudiants, en fait, n'ont jamais, pour certains, en fait, entendu vraiment parler de l'Empire romain. Certains n'ont même pas forcément entendu parler de Constantin, je vous dis, qui viennent d'autres milieux culturels. Donc, replacé dans ce contexte de l'Empire romain, ce cadre politique, géographique, toutes les innovations qu'a pu faire l'Empire romain, et en particulier tout le travail sur les voies romaines, on a eu des cours sur notamment les voies romaines. Les voies romaines sont extrêmement importantes pour comprendre comment les premiers croyants de Jésus ont pu plus facilement voyager qu'auparavant, et donc aller assez loin, assez rapidement, et diffuser un certain nombre d'idées. Ce qui explique que très rapidement, il y ait effectivement des groupes dans différentes cités de l'Empire romain, excepté quelques lieux, en particulier les Gaules, sauf le pourtour méditerranéen. Cependant, cette diffusion géographique qui pourrait faire dire aux étudiants, ben voyez, ça y est, très bien, le christianisme s'est étendu très rapidement, aucun problème, ça prouve bien que la foi chrétienne, notre foi, est la meilleure. Cette diffusion géographique doit être contrebalancée par les résultats d'un certain nombre d'études sociologiques et onomastiques, qu'il faut certes prendre avec des précautions, mais qui montrent que les sectateurs de Jésus, les premiers croyants, puis les chrétiens, sont en fait une toute petite minorité dans l'ensemble de l'Empire, sauf en de rares endroits. Il faut attendre le milieu du IIIe siècle pour que péniblement ils arrivent à 5% de la population de l'Empire romain. Alors, ce sont des chiffres à prendre avec précaution. Et ça veut dire que tout le IIe siècle, il n'y a quasiment rien, c'est moins de 1% de la population de l'Empire romain. Il faut attendre la fin du IVe siècle pour qu'on dépasse les 50%. Donc quand on a ça en tête, ça remet déjà les choses en place. Ça permet surtout d'éviter un effet de loupe. En effet, qui risque d'advenir et auquel, à mon avis, on a vraiment du mal à échapper quand on étudie l'histoire du christianisme naissant. En effet, les principales sources que l'on a à se mettre sous la dent et que l'on peut proposer à nos étudiants, ce sont des écrits chrétiens. Les sources non chrétiennes sont très peu nombreuses. Alors on va citer Pline, mais on va citer une lettre de Pline, trois lignes de Tacite, trois lignes de Suétone, trois lignes d'Épictète, un petit traité de Lucien de Samosate, donc là on est c'est un petit peu mieux, quelques lignes chez Marc Aurèle. Et ensuite, il y a des auteurs polythéistes qui ont polémiqué contre les chrétiens, comme Cès dans les années 170, Porphyre dans les années 270. Malheureusement, de ces auteurs, nous n'avons que des fragments. Donc si on devait mettre ensemble toutes ces sources, allez, on va avoir peut-être une dizaine, cinquantaine de pages. Et à côté, on a les milliers de pages, Origène, Clément d'Alexandrie, Justin, Ignace, Athénagore, etc. Je ne vais pas vous citer tous les auteurs, mais ça veut dire que 99% de nos sources sont des sources chrétiennes. Donc à force de n'étudier que ces sources sans les remettre dans leur contexte, on a l'impression qu'il n'y a que des chrétiens dans l'Empire romain. Donc c'est un effort après, au moment des cours, à chaque fois de remettre dans ce contexte, quitte à mettre le point régulièrement sur la table. C'est vraiment très important à avoir en tête. Donc ça me permet de montrer aussi ces chiffres, même s'il faut les prendre avec précaution, que ces groupes ne sont que des groupes parmi d'autres. Et cela met en évidence finalement l'impact d'une part de l'édit de Galère de 311, qui est régulièrement oublié, parce que Galère, il n'a pas eu de chance, mais bon, déjà il est mort peu de temps après, ça arrive à tout le monde, mais surtout Lactance, qui en parle beaucoup, ne l'aimait vraiment, vraiment, vraiment pas, et donc il en a fait un portrait noir qui s'est perduré dans la tradition. Donc on parle toujours du texte de Milan de 313, co-signé par Constantin et Licinius. Licinius aussi a été légèrement oublié dans la tradition. Certes, il n'était pas vraiment pro-chrétien, mais il a quand même co-signé ce texte. Donc on ne parle que de ce texte de Milan en oubliant l'édit de Galère. Or, le texte de Milan se comprend s'il y a l'édit de Galère, qui est déjà une première étape. Donc, tous ces chiffres permettent de comprendre l'impact d'une part de l'édit de Galère et d'autre part du texte de Milan de 313 et de l'appui impérial en la personne de Constantin. C'est grâce à ces deux édits, cet édit et ce texte de Milan, et c'est grâce ensuite à l'appui impérial en la personne de Constantin qu'à partir des années 320, les chrétiens peuvent déjà discuter beaucoup plus facilement sur la place publique sans avoir peur de se faire dénoncer à droite et à gauche. Ça leur facilite la vie quotidienne et donc ça leur facilite aussi la diffusion de leurs idées, des groupes, l'accroissement des groupes. Les évêques ont le vent en poupe, donc ils vont pouvoir jouer un rôle beaucoup plus important sur les communautés. Donc l'intervention politique est importante pour comprendre le développement du christianisme. Il ne faut surtout pas le minimiser. Alors il ne faut pas dire que tout est dû aux politiques, ce serait tomber dans l'excès inverse, mais il ne faut pas oublier non plus le poids de ces aspects politiques. Et ça, ça dérange un peu, parce que ça rompt aussi avec une certaine vision téléologique héritée de la tradition chrétienne, vision selon laquelle ce qui est advenu, la victoire du christianisme, devait advenir, parce que c'était inscrit dès le départ dans ses gènes, si vous voulez. Et vision qui fait entrer l'histoire finalement dans le plan divin et qui postule que ce qui est advenu finalement c'est par la foi et parce qu'il y a eu victoire ça prouve bien que la foi est réelle, etc. Donc quand on montre que ça a pris beaucoup plus de temps que cela et qu'il a fallu aussi un certain poids du politique pour amener finalement à ce que le christianisme devienne progressivement majoritaire, il a fallu quand même tout le IVe siècle pour cela, ça peut heurter certaines sensibilités qui ont de personnes, notamment d'étudiants, qui ont l'impression qu'on est en train de saper gentiment, grâce à l'histoire ou à cause de l'histoire, les fondements de leur croyance. Je reviendrai sur ce point. Dire aussi que ces premiers groupes chrétiens sont des groupes parmi d'autres, cela signifie aussi qu'ils n'évoluent pas en vase clos, que les chrétiens ne font pas que de discuter les uns avec les autres. Déjà, ils sont peu nombreux, ils sont éloignés, et la communication, c'est pas j'envoie un mail, j'ai ma réponse tout de suite. Non, c'est j'envoie mon message et peut-être que j'aurai une réponse dans 3-4 mois, si la personne est arrivée à bon port dans un cas ou dans l'autre. Les chrétiens, à l'époque, quels qu'ils soient nés dans des familles chrétiennes, surtout au cours du IIIe siècle ou non, en fait, aussi en fonction de leur statut social, participent des mêmes milieux que les polythéistes et d'ailleurs aussi que les juifs, même si les juifs se font pas plus rares, mais plus discrets au cours du IIe siècle. En particulier pour l'éducation, il n'y a pas de voies, il n'y a pas d'enseignement protestant de théologie à l'époque, il n'y a pas de voies d'éducation spécifique chrétienne, on va dire que ça c'est à la maison, sinon pour le reste du temps, pour le reste de l'éducation, ils partagent, ils vont dans les mêmes lieux que les polythéistes, donc ils acquièrent les mêmes rudiments de rhétorique, les mêmes rudiments de philosophie, voire plus, ils vont acquérir les mêmes procédés, les mêmes techniques de raisonnement, les mêmes argumentations qui vont être utilisées en philosophie, le même lexique, etc. Tout ce langage va être utilisé de manière diverse par différents penseurs chrétiens, à la fois pour interpréter des textes dont l'autorité commence seulement à se mettre en place, à s'affirmer, et pour élaborer aussi progressivement tout un discours théologique et christologique. Même ceux qui affichent un certain mépris, voire une hostilité vis-à-vis de la philosophie grecque, telle Tertullien, en fait, recourent aussi au lexique et aux méthodes de raisonnement de la philosophie grecque. Donc toujours se méfier de ceux qui disent « Non, mais moi, j'ai rien à voir avec la philosophie grecque. » En général, quand on creuse, et on n'a pas besoin de creuser bien longtemps, on s'aperçoit qu'ils en utilisent un certain nombre. Je ne vais prendre que deux termes extrêmement important pour les premiers dogmes chrétiens, les termes de ousia, essence, et le terme hypostasis, qui signifie aussi essence, mais que l'on traduit par hypostase. Ces deux termes sont fondamentaux dans les dogmes chrétiens. Le concile de Nicée, enfin les quatre premiers conciles, vont tourner autour de l'usage de ces deux termes, de leur différenciation respective. Ils proviennent de la philosophie grec. Alors il ne s'agit pas simplement d'un emprunt ou d'une influence de la philosophie grecque. Même parler en ces termes n'est pas tout à fait correct. Ça signifierait que la philosophie est quelque chose d'extérieur aux premiers chrétiens. Or, je vous ai dit en fait en tout cas pour ceux qui nous ont laissé des écrits, donc qui ont suivi une certaine éducation, donc avec des rudiments de la philosophie, ils sont biberonnés à la philosophie grecque, si vous me permettez l'expression. Donc ce n'est pas du tout étranger à eux, ça fait partie de leur mode d'éducation. Toute personne cultivée a des rudiments en philosophie. D'ailleurs, un certain nombre de penseurs se percevaient comme des philosophes, notamment Justin, après sa conversion. Et un certain nombre d'auteurs, notamment toujours ce même Justin, qui a vécu au milieu du IIe siècle, considéraient que le christianisme ou le christianismos, c'est pas encore une religion constituée à l'époque, est une philosophie, la meilleure philosophie, mais une philosophie quand même, celle qui se situe au prolongement de toutes les autres. Finalement, naturellement, si vous êtes platonicien, par un moment donné, vous allez arriver au christianismos, selon Justin. Et on a la même conception aussi dans un certain nombre de textes d'Augustin. Donc quand je vois encore « philosophie s'oppose à christianisme, le christianisme s'oppose à philosophie », oui, peut-être, à une certaine époque. Mais pour l'Antiquité, ça ne tient, pour ma part, pas du tout la route. Je ne suis pas la seule à penser cela. Donc il faut vraiment faire attention à ce point. Or, un certain nombre d'étudiants vont relayer cela pour affirmer leur foi en opposant aussi foi et argumentation philosophique. Mais la philosophie, ce n'est pas simplement un ensemble d'argumentations, c'est aussi un mode de vie. Et si on lit les néoplatoniciens, on a parlé de M. Hoffmann tout à l'heure, il vous dirait que la philosophie néoplatonicienne, c'est aussi un mode de vie, c'est un mode de pensée, et on pourrait même dire, on le trouve sur la plume d'un certain nombre de chercheurs qui s'intéressent à la philosophie néoplatonicienne, une certaine spiritualité. Donc ça repose aussi, ça bouleverse un peu mes étudiants quand je leur dis tout ça. Tout ça ne peut finalement qu'intéresser la façon dont actuellement certains pourraient concevoir la foi, leur foi, ou la définir. Une foi, effectivement, qui est perçue, comme à la suite de Søren Kierkegaard, comme un saut dans l'absolu, sans filet, sans sécurité, ne peut être qu'être heurtée par une telle histoire critique. Kierkegaard reprenait l'aphorisme de Tertullien, « Je sais, je crois plutôt, parce que c'est absurde », et il adopte cet aphorisme qu'il prolonge en affirmant que devant Dieu, nous avons toujours tort. Et donc, devant Dieu, les sciences ont toujours tort et l'histoire critique a toujours tort. Et dans ce cadre-là, effectivement, une telle foi conçue selon cette définition ne peut que s'opposer ou être opposée à la démarche de connaissance scientifique. Et pour Kierkegaard, la foi commence précisément où finit la raison. Donc, il n'y a pas de continuité entre foi et raison, même entre pensée et foi. Et donc ce ne sont pas deux étapes successives sur le cheminement, mais en fait ce sont deux démarches qui sont complètement antinomiques. Alors je pense que certains de mes étudiants étaient dans ce cadre-là. En général, ils ne font pas 3 années. Ils partent au bout d'un semestre. Alors, il peut y avoir d'autres raisons académiques, parce qu'ils s'aperçoivent que il faut travailler, il y a des devoirs à rendre, il y a des cours à apprendre, il faut réfléchir. Bref, certains ont du mal. Donc certains partent pour des raisons, on va dire, plus académiques de travail, et d'autres, je le sais pertinemment, ils partent parce que ça les heurte trop dans leur conception. Ils sentent qu'ils vont être complètement déstabilisés. Je ne peux pas les critiquer, je ne suis pas là pour les déstabiliser. Donc ils se sont trompés, ça arrive, c'est nous peut-être qui avons mal expliqué au départ ce que nous faisions. Continuons. Alors non seulement le christianisme naissant ne s'est pas constitué rapidement, ni de manière continue selon une progression régulière, mais en plus, il est caractérisé par la diversité. Régulièrement, cette diversité, et on le voit encore dans certaines publications, on va dire grand public, est advenue dans un second temps. Et dans un premier temps, tout le monde s'entend bien, il n'y a pas de débat, et c'est après, à cause des méchants hérétiques, que la diversité est advenue. Il suffit de lire le Nouveau Testament, on se focalise seulement sur les 4 évangiles, on les lit attentivement en mettant de côté tout ce que la tradition a pu vouloir nous dire sur ces textes-là, on s'aperçoit qui parlent de la même chose, mais pas de la même façon, pas dans le même ordre. Donc c'est un petit peu déstabilisant, en fait. Donc la diversité, elle est au sein même du Nouveau Testament, tel qu'il nous est venu. Il est au sein même des 12 disciples qui sont souvent mis en avant. Et on s'aperçoit qu'ils n'ont pas forcément toujours les mêmes opinions quand on s'intéresse aux paroles qui leur sont attribuées. Or, pour beaucoup de nos étudiants, le Nouveau Testament est un bloc, voire la Bible. La Bible a dit que, je l'ai souvent entendu. Le Nouveau Testament a dit que, je l'ai souvent entendu. Donc, un bloc constitué dès le départ, un peu comme Athéna, de la tête de Zeus. Et dans lequel, finalement, ce bloc, les différents écrits s'interprètent les uns par rapport aux autres, et les uns grâce aux autres, en donnant l'impression d'un discours uniforme qui se transmet par « la Bible a dit que ». Qu'est-ce que la Bible a dit sur tel sujet ? Le développement de l'exégèse critique, qui intègre notamment les méthodes de l'histoire critique, met en valeur les spécificités de chaque écrit, les différences qu'ils ont les uns avec les autres, en replaçant chacun dans son contexte particulier. Même si c'est un contexte hypothétique, mais avec les recherches et la confrontation avec différentes sources, une hypothèse qui est relativement probable. Et cela au sein d'un judaïsme divers. Les écrits qui vont composer le Nouveau Testament, est-ce qu'ils font partie de l'histoire du christianisme naissant, puisqu'il n'y a pas encore de christianisme à cette époque-là, ne font-ils pas plutôt partie de l'histoire du judaïsme du Second Temple ? C'est une grande question posée notamment par Simon-Claude Mimouni, autre directeur d'études à l'École pratique des hautes études. À cela s'ajoute l'intégration progressive, parfois encore timide, dans l'étude de l'histoire du christianisme naissant, de données livrées par toute une littérature découverte ou redécouverte et qui longtemps a été considérée comme apocryphe ou hérétique et que l'on avait souvent lu uniquement à travers les yeux des hérésiologues, c'est-à-dire des auteurs chrétiens qui ont critiqué ces groupes un petit peu bizarres, en premier lieu Irénée de Lyon et beaucoup plus connu peut-être d'un public plus large, Eusèbe de Césarée. Parmi ces écrits, il y a des écrits auxquels je m'intéresse beaucoup, les textes découverts à Nag Hammadi en Haute-Égypte dans les années 45, 13 codex, beaucoup sont assez lacunaires et qui nous transmettent en copte des textes témoignant de groupes, pour faire simple, on va appeler les gnostiques. C'est une affaire compliquée, mais faisons simple, les gnostiques, mais différents types de groupes gnostiques, textes qui n'ont connu aucune tradition manuscrite au-delà du 5e siècle. D'une part, parce que le contenu de ces textes est vraiment, vraiment difficile, et on ne va pas dépenser du papyrus et du temps pour écrire des textes dont on ne comprend rien. Nous-mêmes, nous avons déjà du mal à les comprendre. Et aussi parce qu'un certain nombre de ces écrits ont été condamnés ou ont été lus par des groupes qui eux-mêmes ont été condamnés. Donc cette double cause a fait que ces écrits n'ont pas de tradition manuscrite au-delà du 5e siècle et nous ne les connaissons que grâce à ces découvertes de Nag Hammadi. Plusieurs de ces écrits font partie de groupes chrétiens qui proposent une théologie et surtout une christologie différente, par exemple, si on la compare à un Clément d'Alexandrie, par exemple, ou plus tard à un Eusèbe de Césarée. Parmi ces textes, nous trouvons aussi des textes, on a l'impression qu'il y a simplement un vernis chrétien. Ils vont parler du Christ comme ça pour faire plaisir, je ne vois pas trop à qui, mais pour faire plaisir, ou pour attirer des personnes. Mais si on ne les classe pas comme chrétiens, ils ne sont pas juifs non plus, mais ils ne sont pas polythéistes non plus. On en fait quoi de ces textes-là ? Donc ça montre en fait qu'une très très grande diversité du christianisme, avec un spectre tellement large qu'on ne sait même plus si certains textes en font partie ou pas. Et pourtant, ils en font partie parce qu'ils vont contribuer justement à toutes ces discussions sur qu'est-ce que Dieu, comment on doit s'adresser à lui et qu'est-ce que ça signifie parler de Christ, de la christologie. Ça montre aussi une très grande fluidité entre les groupes, une très grande porosité, quoi qu'en disent certains évêques de l'époque, notamment au IIIe et surtout IVe siècle et Ve siècle, qui n'en vont avoir de cesse que de mettre des frontières, de mettre des murs entre les groupes, les chrétiens, ceux qui sont orthodoxes, de Nicée, et tous les autres, les juifs, ils sont autorisés, mais bon, quand même. Les polythéistes, alors eux, c'est plus simple, ils sont condamnés. Et tous les hérétiques que l'on condamne régulièrement. Donc on a l'impression, quand on lit les lois impériales, ou quand on lit un certain nombre d'auteurs, que les frontières sont déjà bien tracées, mais en fait, quand on gratte, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas bien tracées, et tous ces textes-là nous montrent cette très grande fluidité. Donc ça, c'est extrêmement important. Et cette fluidité est importante à avoir en tête pour comprendre comment les dogmes ont été définis et adoptés, notamment lors des premiers conciles qui ont été considérés comme œcuméniques, en particulier Nicée, Constantinople, et puis Chalcédoine, Éphèse, je le laisse un petit peu de côté. Pour ces conciles, la pensée d'Origène est fondamentale. On ne peut pas étudier Origène si l'on veut étudier ces conciles. Origène, donc, première moitié du IIIe siècle. Mais on ne peut pas comprendre toute la pensée d'Origène, qui est une pensée géniale. Hein. Origène, c'est le génie chrétien du IIIe siècle, en tout cas de mon point de vue. Je ne suis pas la seule à le dire. Origène a écrit surtout, sur plein de choses, beaucoup d'écrits, de très nombreuses idées. Ce n'est pas du tout systématique, hein, donc il n'a pas de pensée systématique, elle évolue. Et il écrit ses idées, il développe ses idées en lien avec ses autres groupes, notamment hérétiques, qu'il combat, dont il rejette certaines idées et postures, mais en même temps il est influencé par certaines de ses idées. C'est comme lorsque l'on débat, on est contre son adversaire et en même temps on peut se dire cette idée elle n'est pas si mauvaise, je vais la reprendre, je vais l'adapter à mon propre schéma de pensée. Mais il n'est pas indemne en fait de ces débats qu'il a avec ses autres groupes. Et donc pour comprendre comment au IIIe siècle s'élaborent différentes idées, il faut avoir ces textes sous la main, même s'ils sont pour un certain nombre d'entre eux extrêmement difficiles à dire. D'autant plus que ces débats, malgré avec ces textes nouveaux, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Mais ils font partie du fondement sur lequel le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui s'est développé. Ces débats sont doctrinaux, mais ils sont culturels et politiques. Et ils démontrent en fait auprès des étudiants, ce qui en bouleverse un certain nombre, notamment en troisième année, qu'un certain nombre de croyances, en fait, qu'ils pensaient sorties tout droit du Nouveau Testament, en fait, résultent de ces conciles du IVe et Ve siècle, d'une certaine interprétation de la Bible, mais la Bible n'est qu'une partie de la recette, on va dire, qui donne le gâteau final des dogmes. Il y a aussi tous les débats dans ces conciles, et c'était pas, les débats étaient virulents, très virulents, avec des compromis et parfois aussi une influence du pouvoir politique. Ça, ça les perturbe, parce que pour eux, ces dogmes ne doivent être issus que de la foi. Et donc, si on voit, excusez-moi, qu'il y a aussi, on va dire, des considérations, ce que l'on pourrait appeler intellectualisantes, enfin philosophiques, etc., l'argumentation du compromis entre différents groupes, ça peut les perturber. Et surtout, ça montre que ces dogmes, ces croyances, sont historiques, elles sont inscrites dans l'histoire, elles ont une histoire et donc elles ne sont pas immuables. Alors je vais bientôt. Oui. 12, bah c'est bon. Alors, en parlant du renouvellement des sources écrites, je vous ai parlé rapidement donc, de ces codex de Nag Hammadi avec ces textes en copte. Et je voudrais très rapidement parler de l'un d'eux, le livre des secrets de Jean. Oui, c'est vraiment un texte chrétien très bizarre, certes, mais on peut le classer sans problème dans cette diversité chrétienne. Or, un certain nombre de recherches actuelles qui concernent notamment les évangiles, tendent à vouloir, et aussi pour les premiers écrits chrétiens, à revisiter les datations traditionnelles. beaucoup de ces datations traditionnelles, en fait, comme traditionnelles, et reposent sur des arguments scientifiques un peu très, très faibles, en fait. Et souvent, les évangiles ont été datés très, très tôt dans le temps pour qu'ils soient bien antérieurs aux premiers écrits chrétiens. Donc, ce n'est pas une argumentation que j'appellerais scientifique. Et donc, il y a tout un mouvement dans la recherche pour réinterroger ces datations. Alors, ça part un petit peu dans tous les sens. Et certains vont même jusqu'à proposer des datations relativement tardives des trois synoptiques, pas de l'évangile selon Jean, qui est toujours un petit peu à part, mais des trois synoptiques, voire jusqu'au milieu des années 140, pour en faire une réaction à Marcion, qui a édité les lettres de Paul, qui est le premier éditeur de lettres de Paul, semble-t-il, et qui aurait écrit lui-même un évangile. Alors bien sûr, nos chers hérésiologues Irénée de Lyon en tête vont dire que ce Marcion n'a fait que réécrire l'évangile selon Luc, donc l'évangile selon Luc est antérieur, et pendant très longtemps, on a cru sur parole Irénée. Mais des recherches montrent que les choses ne sont pas aussi simples que la tradition que nous avons et nous le fait dire, en fait. Alors, je n'irai pas forcément jusque-là, je n'ai pas du tout les compétences, mais il est intéressant d'avoir ces questionnements en tête. Quoi qu'il en soit, si l'on ne parle pas des trois évangiles synoptiques, un certain nombre de textes du Nouveau Testament sont datés des premières décennies du IIe siècle. Et ils deviennent quasiment contemporains d'autres textes, comme la Didaquée, les lettres d'Ignace, et en particulier ce livre des secrets de Jean, qui est daté des années 140. Et donc on s'aperçoit que les textes du Nouveau Testament, une grande partie d'entre eux, ne sont pas antérieurs à tous les autres textes chrétiens, mais qui font partie d'un mouvement de mise par écrit. Et ça, ce n'est pas toujours évident à entendre pour certains. Ça ébranle des certitudes que les évangiles, finalement, sont écrits par les premiers disciples, voire vraiment par les premiers disciples de Jésus, hein, Matthieu, etc. Et je leur dis, faites attention au selon, il est très important, notamment sur le plan théologique, que beaucoup d'étudiants oublient, dommage, et sur le plan historique. Et en plus, on change les titres de ces textes qui ont été donnés ainsi depuis l'Antiquité. Donc ça peut heurter une foi qui est perçue comme un ensemble de certitudes, et un certain nombre d'étudiants peut considérer que cette histoire critique, elle est fausse, qu'elle ne vise qu'à relativiser leurs croyances et n'a en faire que des affaires humaines. Effectivement, quand je dis que c'est l'empereur qui intervient pour pousser que tel dogme soit adopté plutôt qu'un autre, ils se disent « vous voulez saper ma foi ». Et certains, notamment en tradition protestante, ça va contre ce qu'ils considèrent comme étant l'aphorisme réformé, la sola scriptura, seulement les Écritures, rien que les Écritures. Et donc là, je les renvoie à mes collègues dogmaticiens qui leur rappellent que même pour Calvin et Luther, sola scriptura, oui, mais il y avait d'autres choses à côté. Et d'autres vont prendre conscience, pour citer Mohammad Ali Aramir Moïdzi, l'ambiguïté innée à toute religion. Quelle est cette ambiguïté? Alors je le cite à nouveau dans son petit ouvrage qui vient de paraître, L'islam et l'examen critique, scientifique. Scientifique. Les religions ne sont donc pas immémoriales, elles sont elles aussi les filles de leur temps. Et c'est ce que j'essaye de montrer dans l'histoire critique du christianisme naissant. Même si par définition, elles possèdent par leur provenance un sens du temps bien plus long qui les met à distance de leur époque. Cette prise de distance, de conscience, est un passage douloureux. Elle peut passer par une déconstruction, effectivement, d'une foi perçu soit comme un saut dans l'absolu, soit comme un ensemble de certitudes. Et la reconstruction ne peut être que personnelle. Je n'ai pas de prise là-dessus. On peut l'accompagner, ça c'est sûr. C'est ce qu'on essaye de faire à l'Institut protestant de théologie. Et cette reconstruction ne peut conduire Alors, on espère pas à l'incroyance, c'est pas notre but hein, au sein de l'Institut, mais pour conduire à une foi selon une autre conception, une foi au risque du doute, pour reprendre à nouveau les mots de Frédéric Rognon, une foi qui est un chemin. Et parce que l'histoire critique invite à interroger le rapport à la tradition, mais aussi aux textes canoniques, comme des fondements et non pas quelque chose de fondamentaliste. Même le fondamentalisme, il peut y en avoir aussi dans le protestantisme. Donc, elle invite à les relire comme des données à penser. Ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, pour en découvrir ou redécouvrir la richesse et toutes les potentialités. Et cette histoire critique, c'est ce que je dis aussi des fois à mes étudiants, elle a une sorte de côté libérateur, justement. Parce que, en tout cas, ça invite à se poser des questions. À ne pas dire « oui, mais mon pasteur a dit que ». Vous pouvez relire les textes, et si vous pouvez, ils apprennent chez nous les Grecs, le grec et l'hébreu, le grec de la Septante et du Nouveau Testament et l'hébreu, et donc ils ont les moyens aussi de retourner au texte grec qui n'est pas original, mais en tout cas celui qui est édité, et j'essaye de leur montrer toute la richesse du lexique grec, des expressions grecques, qui parfois, dans les traductions, notamment les traductions confessionnelles, on ne rend pas compte de cette richesse, elles sont orientées confessionnellement, on va dire, c'est logique. Mais si vous voulez, vous aussi, réfléchir à nouveau, etc., replonger dans les textes, si vous pouvez, dans la langue dans laquelle ils ont été écrits. Donc un côté libérateur, amour de ces textes, et libérateur aussi, à côté de tous les arguments d'autorité qui peuvent leur être donnés, je vous ai dit, le pasteur pour un certain nombre de nos étudiants, qui viennent en particulier de communautés très évangélistes et très traditionnalistes. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire là-dessus, et je vous remercie pour votre attention.
Mesdames et messieurs, chers amis, d'abord un grand merci au professeur François Héran pour son invitation. J'en suis touché et honoré. Et merci à toi, Anna, pour cette excellente intervention, dont je vais reprendre un certain nombre de thèmes. Alors, l'intitulé de mon intervention est « Le Coran entre approche historique et la tradition ». L'étude scientifique du Coran, c'est-à-dire l'étude philologique et historique, commence dans la première moitié du XIXe siècle, dans les milieux des juifs savants, surtout de l'Europe centrale et de l'Europe orientale, chez des biblistes d'une érudition impressionnante. Donc, nous sommes dans les années 1830, les choses commencent avec un livre qui fait date d'un savant allemand, Abraham Geiger, dont le titre est « Ce que Mahomet doit au judaïsme ». Et c'est pour la première fois que ce savant montre de manière extrêmement convaincante les données juives dans le Coran, pas seulement issues de la Bible hébraïque, mais également de la tradition talmudique et midrashique. Alors, je ne vais pas reprendre, disons, l'histoire longue et détaillée de l'étude scientifique du Coran depuis donc, le XIXe siècle jusqu'à nos jours, mais simplement, donc, c'est-à-dire ça commence dans les années 1830, et puis ça se diffuse dans toute l'Europe et à partir du XXe siècle aux États-Unis également. Mais je vais parler de deux tournants importants. D'abord, dans les années 1970, arrive ce que nos amis anglo-saxons appellent le 70s shock, le choc des années 70, et en particulier à cause d'un certain nombre de savants britanniques. Je pense à John Wansbrough qui est à Cambridge, à Patricia Crone et Michael Cook qui sont à Oxford, et puis au même moment en Allemagne, Günther Lühling. Et bon, leurs écrits ont fait couler des océans d'encre, d'éloges et de critiques. Je ne vais pas les reprendre, mais ce qu'il faut retenir de ces études, c'est peut-être deux choses qui sont restées encore valables. Ces savants-là ont montré de manière absolument incontestable que pour ce qui est le Coran, l'histoire de la rédaction du Coran et des débuts de l'islam, on ne peut absolument pas faire confiance aux sources islamiques. Ce que disent les sources islamiques, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, c'est que les auteurs de ces sources islamiques appartiennent à des factions rivales qui sont en guerre les unes contre les autres, et donc chacun veut donner de ses origines, du Coran, de la figure de Mahomet et des tout débuts de l'islam, disons, l'image qu'il arrange. Donc, il y a énormément de légendes, il y a énormément d'invraisemblances, il y a énormément de contradictions, il y a tout et son contraire. Donc, on ne peut pas faire confiance. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter à la poubelle ces sources-là, mais simplement, il faut essayer, justement, non pas de les prendre à la lettre et de considérer que ce qu'ils disent, c'est la vérité historique, mais simplement essayer d'étudier, justement, leurs contradictions, leurs légendes, leurs invraisemblances, et d'en découvrir les raisons. Deuxième grande découverte de ces savants dans les années 70, c'est qu'il faut intégrer de manière systématique dans l'étude des débuts de l'islam et du Coran les sources non islamiques contemporaines du Coran. Nous sommes donc dans ce que nous appelons maintenant le Proche et le Moyen-Orient, aux confins du 6e, 7e siècle de notre ère, donc intégrer dans l'étude des débuts de l'islam et du Coran, les sources contemporaines, c'est-à-dire les sources juives, par exemple, en hébreu, les sources iraniennes, en moyen perse, en Pélévi, et surtout les sources chrétiennes, puisque les chrétiens constituent la majorité presque absolue de la population à cette époque-là, dans ces régions-là. Donc, les différentes langues du christianisme à cette époque, le grec, le latin, l'éthiopien, et surtout l'araméen syriaque, qui est la langue internationale, en quelque sorte, du christianisme à cette époque. Donc, il faut prendre en compte et intégrer ce que disent ces sources-là sur, justement, l'avènement de ce prophète arabe, de son message prophétique, etc. Donc là, c'est les années 70. Alors, ces écrits ont suscité, je dirais, des courants de recherche, des écoles de recherche sur les débuts de l'islam et sur le Coran, en Europe et aux États-Unis. Et donc, ces études sur ces sujets-là se sont multipliées de manière pratiquement exponentielle. Arrivent les années 2000, deuxième grand tournant de ces études sur le Coran. Là encore, je vous épargne là, des dizaines de noms de savants et d'ouvrages. Ce qu'il faut retenir, c'est là encore deux, je dirais, résultats méthodologiques et épistémologiques. D'abord, jusque-là, jusqu'aux années 2000, on pensait que, si vous voulez, on distinguait, on étudiait, on examinait avec beaucoup de précision l'influence ou les sous-textes juifs du Coran. À partir des années 2000, on a plutôt compris que ces influences juives arrivent dans le Coran, dans le contexte du Coran, dans la communauté coranique, à partir des sources, justement, chrétiennes de langue syriaque. C'est-à-dire que les données juives du Coran se sont passées, même s'ils sont midrashiques, talmudiques, etc., sont passées par le filtre des écrits syriaques. Par exemple, les polémiques anti-juives du Coran, on a trouvé, si vous voulez, des parallèles presque exacts dans les écrits chrétiens. Donc, l'importance du syriaque, ça a ouvert énormément de nouvelles pistes. Et deuxième chose, on a intégré dans l'étude du Coran et des débuts de l'islam ce qu'on pourrait appeler l'histoire matérielle, c'est-à-dire l'archéologie, l'épigraphie, la codicologie, la paléographie, etc. Donc, essentiellement parce que depuis les années 70-80, les autorités saoudiennes ont autorisé les fouilles archéologique en Arabie, en dehors des deux villes saintes de la Mecque et de Médine, mais tout de suite au-delà des frontières de ces deux villes, c'est-à-dire la région de Hijaz, ils ont autorisé les fouilles, ce qui a abouti à des découvertes absolument impressionnantes sur justement le passé, et j'y reviendrai, sur le passé pré-islamique de l'Arabie. Donc, l'importance du christianisme, surtout de langue syriaque, et deuxième chose, l'histoire matérielle, et en particulier l'archéologie et l'épigraphie. Donc, à partir de là, là encore, se sont multipliées les recherches et les courants d'études, de recherches internationales dans lesquelles collaborent ensemble, pas seulement les spécialistes du Coran et de l'islam, mais également les spécialistes du judaïsme, des christianismes, des religions de l'Antiquité tardive, donc le manichéisme, le zoroastrisme, et puis les spécialistes, justement, de l'histoire matérielle, les archéologues, les épigraphistes, les codicologues, etc. Donc, ce qui fait que, depuis maintenant 10-15 ans, nous avons complètement changé, enfin, dans les milieux, en tout cas, académiques et savants, nous avons changé de perspective et nous avons un paysage des débuts de l'islam et de l'histoire du Coran qui sont complètement renouvelés. Alors, dans un ouvrage collectif que j'ai dirigé avec mon collègue de Bruxelles, Guillaume Di, et qui est apparu en 2019, qui s'appelle le Coran des historiens, en 3 volumes et 4000 pages, nous sommes une trentaine justement de savants appartenant à ces disciplines dont je viens de parler, nous avons essayé de synthétiser le résultat de ces 2 siècles d'études. Quels ont été les résultats? Beaucoup, mais je veux dire aussi beaucoup de zones d'ombre. Je dirais que peut-être la grande vertu du Coran des historiens, c'est d'avoir réussi à poser les bonnes questions que d'apporter à des réponses toutes faites et des certitudes. Mais peut-être pour ne citer que un des résultats qui semble assez incontestable et qui est partagé par la plupart des savants, c'est ce que je veux vous dire maintenant en 3 points. D'abord, Mahomet est venu annoncer la fin du monde. C'est-à-dire que la dimension apocalyptique est extrêmement présente, très lourdement présente dans le Coran. Il ne s'agit pas de quelques chapitres, de quelques sourates et de quelques versets, mais des dizaines de sourates, surtout les 30-35 dernières sourates, à 2 exceptions près, les sourates finales du Coran, qui sont les sourates les plus courtes et dont la langue est la plus archaïque. Donc, nous avons ces dizaines de sourates, et puis des centaines et des centaines de versets qui viennent, qui annoncent la fin imminente du monde. Donc le vocabulaire le montre, c'est de quoi parle cette apocalyptique en termes très, très généraux, c'est que la fin est proche, elle est marquée par des bouleversements, des catastrophes sur terre et dans le ciel, et donc une invitation des hommes à être bons les uns envers les autres, à être pieux, à jeûner, à prier, à payer l'aumône pour être épargné donc de la colère de Dieu qui tombe et du jugement dernier qui s'annonce. Alors, de ce point de vue-là, cette partie-là du Coran, au moins, là aussi, je reviens à ce que disait tout à l'heure Anna, le Coran, c'est comme la Bible, hein. Ce n'est pas un livre, une entité unique et homogène, mais c'est un corpus. Hein. C'est un ensemble de textes qui sont parfois très différents les uns des autres, sur tous les plans stylistiques, du contenu, du genre littéraire, etc. Mais, donc, de ce point de vue-là, cette apocalyptique, ce qu'on pourrait appeler l'apocalyptique coranique, appartient véritablement à son temps et à son lieu. C'est-à-dire que nous sommes donc aux confins du 6e et 7e siècle, tout le monde pense, dans toutes les traditions, que la fin du monde est proche. Nous avons contemporains du Coran, deux apocalypses juives, donc en hébreu, qui disent la même chose, deux apocalypses zoroastriennes en moyen perse qui disent la même chose, et surtout des dizaines d'apocalypses chrétiennes de langue syriaque surtout, mais aussi en éthiopien et en grec, mais surtout en syriaque, qui disent exactement la même chose. Hein, parfois dans les mêmes termes, on a parfois l'impression que certaines parties du Coran sont des paraphrases, je ne pourrais pas dire des traductions, mais des paraphrases de ces écrits syriaques où l'on parle des catastrophes sur terre et dans le ciel et où on invite les gens à être bons les uns vers les autres, à prier, à jeûner, à pratiquer la piété, l'aumône, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a une ambiance de fin du monde. C'est-à-dire qu'il y a des siècles de guerre entre les deux grands empires de l'époque, c'est-à-dire les Iraniens sassanides et les Byzantins, avec leur lot de massacres, de déportations, de maladies, des jeunes qui partent et qui ne reviennent pas, de taxes extrêmement lourdes, etc. Donc des guerres dans le nord de l'Arabie, donc entre les Byzantins et les Iraniens, mais avec des répercussions en Arabie, bien sûr. Dans le sud, il y a des guerres entre le Yémen et l'Éthiopie, sur une plus petite échelle, mais il y a quand même des guerres. Nous sommes au 6e, 7e siècle. Ensuite, il y a des épidémies, hein, surtout de peste. Une de ces épidémies de peste est très connue de la littérature chrétienne, c'est la peste d'Emmaüs, hein, exactement contemporain de la date traditionnelle de la naissance du prophète de l'islam, donc des épidémies de peste extrêmement meurtrières. Il y a des bouleversements et des catastrophes naturelles, en particulier des tremblements de terre. Hein, je rappelle qu'une des sourates justement apocalyptiques du Coran, ça s'appelle le séisme, Azalzal. Donc, l'auteur coranique est très impressionné hein, par les tremblements de terre qui sont perçus comme des signes de la fin du monde. Nous avons également, nous le savons par des études astronomiques, qu'il y a eu des éclipses. Donc, il y a un ensemble de phénomènes qui font que tout le monde pense que c'est la fin du monde. Deuxième élément, le Coran appartient à la tradition biblique. Là aussi, je pense que maintenant c'est absolument incontestable, c'est-à-dire là aussi, contrairement à ce que disent les sources islamiques, qui présentent l'Arabie pré-islamique comme une terre d'ignorance et de barbarie où les gens adorent les arbres, les cailloux, les lézards, et qu'ils s'entretuent, qu'ils enterrent vivantes leurs filles, etc. Là, ce sont des données apologétiques. Hein, dans toutes les religions, c'est comme ça. Avant nous, il n'y a rien. Après nous, il y a tout. Donc l'islam arrive et la lumière est là et qui remplace les ténèbres antérieures. Alors nous savons, justement, par les données, des données, par exemple archéologiques, qu'il n'en est rien. Qu'il n'en est rien. Nous savons, les fouilles archéologiques le montrent de manière extrêmement claire. L'Arabie pré-islamique appartient aux traditions bibliques et en particulier au christianisme, mais aussi au judaïsme, j'y reviendrai. Et puis, la preuve la plus évidente, c'est le Coran lui-même. C'est-à-dire qu'à côté de quelques rares données sur le paganisme arabe, hein, sur les idoles de l'Arabie pré-islamique et sur deux prophètes arabes, ce sont des passages extrêmement rares et extrêmement courts. Chaque page, donc à part ces passages, chaque page du Coran est remplie de données bibliques. D'abord, les figures bibliques. Ça va d'Adam, d'Abel et de Caïn jusqu'à Marie, Jésus, Zacharie et Jean-Baptiste, en passant par Noé, Salomon, David, Moïse, personnage absolument central du Coran, Abraham, autre personnage central, Jésus, etc. Job, Jonas, donc les personnages, les figures bibliques sont là, les thèmes bibliques sont là, c'est-à-dire le monothéisme, bien sûr, un monothéisme extrêmement vigoureux, le prophétisme, c'est-à-dire Dieu parle de temps en temps à des hommes qui transmettent son message à leur peuple, et le jugement dernier, hein, les hommes seront châtiés ou récompensés à la fin des temps selon leurs actes. Point. Ça, c'est la profession de foi coranique. Monothéisme, prophétisme, jugement dernier, là, ce sont des thèmes bibliques, hein, juifs, chrétiens, que, d'ailleurs, chaque juif et chaque chrétien s'y reconnaît dans ces thèmes-là. Donc, les figures et les thèmes bibliques sont là. Et puis, chose extrêmement importante que nous avons minutieusement étudiée dans le Coran des historiens, les données bibliques du Coran sont allusives. C'est-à-dire que ceux qui écoutent le Coran connaissent ces histoires-là, sinon ils ne comprennent rien. Donc j'ai parlé de ces figures bibliques, d'Abraham, de Moïse, etc., mais vous n'avez pas toute l'histoire de Moïse dans le Coran, ou toute l'histoire d'Abraham. Vous avez des bribes de l'histoire biblique de ces figures-là. Hein, il y a une sorte, le Coran effectue une sorte de sélection de ces histoires-là, et en quelque sorte commente ces bribes d'histoire. Mais ça veut dire que ceux qui l'écoutent ou ceux qui le lisent connaissent. Sinon, c'est absolument incompréhensible. On connaît ces histoires. Il y a des données bibliques compliquées que le Coran n'explique pas. Hein? Jésus, figure extrêmement importante du Coran, est appelé chaque fois avec insistance Jésus, fils de Marie, le Christ, Isa ibn Maryam al-Masih, Esprit de Dieu, Ruhullah, Verbe de Dieu, Kalimatullah. Et le Coran n'apporte aucune explication à ces termes qui sont extrêmement chargés. N'est-ce pas ? D'abord, cette insistance à chaque fois Jésus, fils de Marie, c'est pour ne pas dire fils de Dieu. Donc, il y a une christologie. Anna a parlé tout à l'heure de différentes christologies qui sont en conflit, hein, les uns avec les autres pendant des siècles dans le christianisme. Le Coran a également sa christologie. C'est une christologie qui n'accepte pas la filiation divine de Jésus, mais qui accepte que Jésus est Verbe de Dieu. Donc ce n'est pas un homme ordinaire non plus, et il n'est pas un prophète ordinaire non plus. Aucun autre prophète dans le Coran n'est appelé Verbe de Dieu ou Esprit de Dieu. Mais ça n'a rien de exclusivement arabe ou coranique. Il y a des courants chrétiens qui disent la même chose. Hein, les Nestoriens, les Ariens, les Monarchianistes, les Montanistes, etc. C'est-à-dire, en gros, ceux qui sont un peu contre les conciles de Nicée et de Chalcédoine. Donc nous avons une christologie qui est une christologie considérée comme hétérodoxe, pour ne pas dire hérétique, par la grande église catholique de Constantinople. Mais nous avons une christologie. Donc nous sommes dans une tradition biblique. Et donc, là, si vous voulez, c'est que le fait que le Coran n'apporte aucune explication sur le terme de Christ, sur l'expression Verbe de Dieu, sur l'expression Esprit de Dieu, ça veut dire quand même que son auditoire comprend, a une idée de ce que disent ces termes-là. Donc, appartenance à une tradition biblique, annonce de la fin du monde. Dernière chose, c'est que à cette époque, si on appartient à une tradition biblique et on annonce la fin du monde, on ne peut pas ne pas annoncer l'avènement du Christ, c'est-à-dire le sauveur de la fin des temps. Et c'est un fait que le seul personnage qui est appelé, qui porte le titre de Christ dans le Coran, c'est Jésus. Comme je viens de le dire, donc, à chaque fois, Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, Al-Masih, le Messie, le Christ, et donc, nous avons affaire, alors, mais sans aucune explication, c'est-à-dire que le Coran ne dit pas que ce Messie est aussi le sauveur de la fin, de la fin des temps. Selon certains spécialistes, dans sa version originelle, le Coran le disait, mais cette version-là a été ensuite purgée de ses messages. Ça, c'est une autre question. Donc, nous sommes dans une... C'est-à-dire, ça nous donne un nouveau paysage, en quelque sorte, du Coran. Donc, là aussi, tout cela montre que le Coran appartient à ce qu'on appelle l'Antiquité tardive. Et l'Antiquité tardive, donc, qui va, disons, de 2e siècle, 2e, 3e siècle avant notre ère, jusqu'au, disons, 6e, 7e siècle, est marquée par quelques caractéristiques extrêmement importantes, c'est-à-dire nous sommes dans le monde culturel qu'on appelle la Romanité, hein, l'Empire romain, marqué par deux choses, la pensée grecque et les pensées chrétiennes. Et tout cela, nous trouvons, d'une certaine manière, nous pourrons en parler pendant nos échanges, dans le Coran. Alors, c'est que le problème, c'est que cette fin des temps n'est pas arrivée. Les problèmes commencent là. Donc, le prophète annonciateur de la fin du monde meurt, la fin n'arrive pas, et en même temps arrivent des événements qui ont changé quelque part la face du monde. C'est-à-dire, d'abord, des guerres civiles entre les musulmans, pour des raisons assez précises, mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. L'islam naît et se développe dans une violence civile et fratricide, des guerres civiles qui vont durer 3 siècles. 3 siècles. Beaucoup de religions sont nées dans la violence, mais pas dans la violence civile et pas des violences aussi longues dans le temps. Les guerres civiles et puis les conquêtes arabes qui arrivent très tôt, donc quelques décennies après la mort du prophète, les Arabes vont se trouver à la tête de terres qui vont grosso modo, je dirais, de l'Égypte jusqu'en Chine. Et ils font tomber les terres méridionales et méditerranéennes de l'Empire byzantin et l'Empire sassanide dans sa totalité. Donc, les conquêtes et la mise en place d'un empire qui, bientôt, va devenir un empire solide, un état centralisé solide. Nous sommes moins d'un siècle après la mort du prophète, donc déjà un état solide est là, qui veut avoir sa propre religion. Là aussi, Mahomet n'était pas musulman, n'est-ce pas ? Et le Coran n'est pas le livre de l'islam qui n'est pas encore né. Hein, je ne parle pas de la foi intérieure des fidèles, ce n'est pas ça une religion. Une religion est une institution collective. Hein, et donc, l'islam, en tant que religion collective, naît. Là aussi, Anna a parlé de Constantin et le christianisme, on peut parler du 5e calife omeyyade, Abdelmalek. C'est facile à retenir, c'est le même nom que le grand rappeur, n'est-ce pas, que tout le monde connaît, Abdelmalek, mais qui est un personnage absolument considérable dans l'histoire de l'islam, que beaucoup considèrent comme le fondateur de l'islam, comme religion impériale. C'est lui qui donne à cette religion ce nom-là, qui va être pris comme un nom propre. Ce n'était pas le cas avant lui. Les premiers documents où cette religion est appelée islam datent de l'époque de Abdelmalek, et donc cette religion impériale va avoir un nom, un prophète. Là aussi, Abdelmalek pense à promouvoir donc la figure de prophète, qui est presque oublié après sa mort, en tout cas dans les documents, et puis son propre livre, c'est-à-dire le Coran, hein, ou qu'il en fait le livre, l'écriture sainte de cette nouvelle religion. Mais comme il y a la guerre et que le califat omeyyade a beaucoup d'ennemis, tous les fidèles de Mahomet n'acceptent pas cette version impériale califale du Coran. Donc il y a d'autres Corans qui circulent, au moins 5, sur les terres d'islam, pendant au moins 3 siècles. Bon. Alors j'arrive à ma deuxième partie, à la deuxième partie de mon exposé. Donc tout ce que je viens de dire, effectivement, un musulman croyant a parfois du mal à les accepter, puisque ça va effectivement contre un certain nombre de ses croyances. D'abord, un petit mot d'histoire, c'est que tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire la méthode même historico-critique, est le résultat d'une histoire intellectuelle qui est occidentale, qui est européenne. C'est-à-dire la méthode, c'est-à-dire le fait de regarder, d'examiner les choses de la foi avec un regard critique est l'aboutissement d'un certain nombre de phénomènes historiques extrêmement importants en Europe, qui commencent avec peut-être un certain nombre d'exégèses bibliques de la fin du Moyen-Âge, la Renaissance, l'humanisme, les Lumières, la séparation de l'Église et de l'État, etc. Donc ça dure plusieurs siècles, et des conflits, parfois extrêmement violents, mais finalement, ce qu'on pourrait appeler, peut-être de manière un peu trop générale, l'Occident accepte ce que moi je considère comme le résultat intellectuel de la modernité, c'est l'approche historique et critique des religions. C'est-à-dire la capacité de contextualiser, la capacité de relativiser, la capacité de regarder de manière rationnelle, c'est-à-dire fondée sur l'histoire et la philologie, extrêmement importante, là aussi, autre découverte de l'Occident, donc en s'appuyant sur l'histoire et la philologie, regarder les religions. Quel est le résultat? Alors, bien sûr, tout le monde n'a pas accepté, et même on a dit que même de nos jours, un certain nombre de données fondées sur l'histoire choquent les croyants. Mais quand même, ce choc ne va pas toujours, heureusement, jusqu'à la violence, jusqu'à des réactions violentes. La chose n'est peut-être pas la même chose chez les musulmans et dans le monde islamique. C'est-à-dire que le monde islamique n'a pas connu véritablement cette histoire longue dont je viens de parler et qui est marquée par ce que j'ai appelé la révolution philologique. La révolution philologique, c'est-à-dire un des résultats extrêmement salutaires de cette évolution, c'est la découverte de l'autre. Ce qu'on appelle les orientalistes, et maintenant c'est très mal vu, n'est-ce pas, parce que ça fait très colonial, ça. Bon, mettons tout ça, c'est très folklorique, ça va passer. Mais ce qui caractérise véritablement la pensée des historiens de l'Antiquité à partir du XVIIe, XVIIIe siècle et ce qu'on appelle les orientalistes, c'est la découverte de l'autre dans les textes de l'autre, dans les sources de l'autre. Jusque-là, on regardait l'autre avec ses propres lunettes, c'est-à-dire des lunettes polémiques. Les chrétiens regardaient les musulmans comme des ennemis, comme l'autre par excellence, et vice-versa. La philologie permet de découvrir les textes de l'autre, et c'est-à-dire l'autre dans son altérité. Et c'est le début de la tolérance. Et c'est ça ce que j'appelle la révolution philologique. Et donc là, si vous voulez, ce n'est pas le monde musulman et le musulman lambda n'est pas passé par cette histoire. Il ne connaît de cette modernité, je dirais, que les conséquences technologiques, bien sûr. Mais l'évolution intellectuelle de cette modernité n'a pas encore touché, je dirais, la mentalité musulmane. Mais les choses changent. Et en particulier, peut-être, je vais terminer là-dessus, on sent qu'il y a des frémissements dans le monde musulman et dans la communauté musulmane. Peut-être par ce que j'ai appelé l'apprentissage par la souffrance. Quel est le problème ? L'islam politique et l'islam violent. Et quoi qu'on en dise, les premières victimes de cet islam violent sont les musulmans eux-mêmes, par centaines de milliers. Regardons le monde musulman, la guerre ou les guerres vont de la Mauritanie du Mali jusqu'en Afghanistan, voire au-delà. Des pays entiers ont été rasés, je dirais, de la carte. La Syrie n'existe plus. Le Yémen n'existe plus. L'Irak n'existe plus. La Libye n'existe plus. Ce sont des pays de grandes civilisations antiques. Et c'est très saisissant, c'est-à-dire l'indifférence dans laquelle ces pays ont disparu. C'est comme demain on disait l'Autriche n'existe plus, la Tchéquie n'existe plus, l'Italie n'existe plus. Mais ça s'est arrivé. Alors bien sûr, il y a des raisons géopolitiques extrêmement importantes, mais il y a aussi le problème de l'islam politique qui fait rage dans toute cette étendue gigantesque. Et là, peut-être un des résultats positifs, c'est que les musulmans commencent à avoir un regard critique sur leur propre tradition. C'est-à-dire, ils disent, moi je suis en contact avec les intellectuels, les écrivains, les universitaires, qu'il ne suffit plus maintenant de dire tout ça c'est la faute du colonialisme, de l'impérialisme, du sionisme. Non, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans nos propres traditions et dans le regard que nous avons sur notre tradition. Il faut que quelque chose change. Donc, des phénomènes comme l'État islamique Daesh, comme Al-Qaïda, comme, je ne sais pas, le djihad islamique, etc. Alors, c'est bien sûr imbécile de dire que l'islam, c'est l'État islamique. Non, c'est pas ça, bien sûr. Mais c'est aussi imbécile de dire l'État islamique n'est pas islam. Si, c'est l'islam aussi. C'est-à-dire, ces mouvements-là s'appuient sur des textes, voire des textes sacrés. Ils ont leur théologie, hein. Ils ont leur pensée théologique qui, pour justifier ce qu'ils font. Et donc, les musulmans disent que ce qui permet à ces gens-là de se justifier, c'est justement parce qu'ils ont une vision absolutiste des choses. C'est-à-dire qu'ils disent que des textes archaïques sont applicables partout, en tout temps. Et ça pose problème. Et donc, pour ces gens-là, la vision historique et critique est la voie du salut. C'est ce que j'entends tous les jours. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que ça crée une respiration pour ces gens-là, ça leur donne de nouvelles lunettes pour regarder leur propre tradition. Alors, effectivement, c'est-à-dire nouvelles lunettes, lunettes critiques, lunettes distanciées, ce qui relativise les choses, en introduisant l'histoire et la géographie dans la vision que nous avons des choses de la foi. Alors, très souvent, on me l'a dit de manière tout à fait explicite. Est-ce que j'ai eu dans mes conférences, etc., en face de moi, parfois des musulmans croyants, hommes et femmes, et qui me disent, est-ce que vous ne croyez pas que cette vision-là va menacer notre foi, va saper, hein, ce que tu as dit, notre foi? Alors, je dis, bon, je ne sais pas. Mais je cite toujours pour ces amis croyants, deux grandes figures de la pensée islamique classique. Le théologien Razali du XIe siècle et le grand mystique Ibn Arabi du XIIe siècle. Je dis tous les deux, ces deux-là font une distinction entre la foi, iman en arabe, et la croyance, aqida. Ils disent tous les deux, de leur manière, théologien ou mystique, la foi est quelque chose de mystérieux. C'est un peu comme l'amour, on ne sait pas d'où ça vient. C'est quelque chose qui n'a pas à voir avec l'éducation, avec le milieu, ça vient du très fond de l'être. Et ça concerne des choses absolument essentielles. La croyance concerne les choses plus accessoires et c'est en relation avec notre milieu, nos parents, notre éducation, notre culture, notre société, notre histoire, etc. Et parfois, ces deux choses-là entrent en conflit. Il y a des croyances qui polluent la foi. Et donc, pour avoir peut-être une foi plus pure, il faut laisser de côté, il faut abandonner un certain nombre de croyances. Je pense que la vision historique et critique des choses fait la part entre ce qui est essentiel et qui relève de la foi et ce qui est accessoire et qui relève de la croyance. La vision historique et critique peut mettre en doute un certain nombre de croyances, mais pas la foi. Et peut-être de cette manière-là, paradoxalement, elle peut consolider même la foi. Pas la menacer, mais consolider. Et je termine peut-être avec ce que disait Spinoza au sujet, justement, il était un grand partisan de la vision historique des choses. En parlant des Écritures, il disait, pour déshistoriciser Dieu, pour la placer là où il doit être, au-delà de l'histoire, il faut historiciser les Écritures pour faire la distinction justement entre ce qui est accessoire et ce qui est essentiel. Et c'est peut-être la seule manière d'éviter deux trahisons à l'égard de Dieu, c'est-à-dire d'abord politiser Dieu ou diviniser le pouvoir qui s'en réclame. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.